Si loin, si proche, le rendez-vous des voyages. Paris, c'était la gaieté Paris. Céline Develay-Mazurel, Laure Alary.
En se posant la question de où sont les femmes, en fait, on découvre énormément de lieux, énormément de personnalités, de pans de l'histoire. Et ça, c'est le fait de transformer son regard, c'est quelque chose qu'on peut faire partout.
Bonjour à toutes et à tous. Nous allons arpenter le pavé parisien cette semaine sur les traces de femmes célèbres ou anonymes, inspirantes et innovantes qui ont fait la capitale, ses lumières et son histoire. Mais le plus souvent, si l'histoire se lit sur les murs et les monuments de la ville, force est de constater que les femmes en sont largement absentes. C'est le constat qu'a fait Charlotte Soulary, qu'on vient d'entendre, une trentenaire baroudeuse, ancienne porte-parole de l'association Oser le féminisme, qui en 2018 a créé une plateforme collaborative et un guide, auto-édité La Guide de Voyage, qui revisite Paris, en mettant les femmes au centre. 2018, c'est aussi l'année MeToo. La parole s'est libérée à travers le monde, plaçant au cœur des débats la question des féminismes, des violences faites aux femmes, dans des sociétés encore inégalitaires et où le patriarcat domine toujours. Au XXIe siècle, en France comme ailleurs, la femme doit donc encore trouver sa place. Alors elle va l'apprendre. C'est en somme ce qu'a fait Charlotte avec son guide et tout son élan, considérant que le voyage peut faire progresser l'égalité homme-femme et renouveler notre regard. Alors, pour débuter notre balade dans l'Est parisien, elle a tenu à me donner rendez-vous à un endroit précis, typique des places de femmes. Tu verras, m'a-t-elle dit.
Alors on est à deux pas de la place de la République et en fait là c'est un croisement entre quatre rues, la rue Béranger, la rue Franche-Comté, la rue Charlot et la rue de Turenne que pas grand monde connaît sous le nom de place Olympe de Gouges, tout simplement parce que c'est un croisement au milieu duquel on a planté un arbre pour lui donner ce nom de place Olympe de Gouges. Et c'est un peu dommage parce que c'est pour moi une des femmes les plus importantes de l'histoire de France, donc elle mériterait un endroit un peu plus connu et où il y a un peu plus de passages. Et c'est assez symbolique de ce qu'on voit quand on se balade dans Paris et qu'on cherche à connaître l'histoire sous l'angle des femmes. C'est qu'en fait, il y a très très peu de femmes de l'histoire qui sont visibles. Et pas uniquement dans les noms de rue, mais aussi dans le patrimoine, dans l'art. Et du coup, on les retrouve un peu dans les interstices de la ville.
Marginalisées, en quelque sorte ?
Marginalisées et invisibilisées. En fait, elles sont toujours au second plan de nos existences et donc de l'histoire avec un grand H qu'on retient. Et du coup, quand il s'agit de donner des noms à nos rues et de rendre visibles des personnes qui ont marqué l'histoire, bah, les historiens, qui étaient quasiment que des hommes, n'ont retenu que des hommes et donc vont mettre les grands hommes de l'histoire, souvent politique et militaire, quoi.
Et alors toi, tu as créé ce guide que j'ai dans la poche et qui va être un petit peu aussi notre guide, qui va nous emmener sur les traces de ces grandes femmes, qui s'appelle la guide de voyage, ce qui est assez drôle parce que normalement c'est un nom masculin, on dit un guide. Pourquoi avoir créé ce guide ?
En fait, j'ai créé le guide que j'aurais voulu avoir pour visiter cette ville. Parce que je ne trouvais pas dans les guides de voyage existants des informations sur les femmes importantes qui ont marqué l'histoire de Paris. Il n'y a rien sur Olympe de Gouges, il n'y a rien sur Louise Michel, il n'y a rien sur même Édith Piaf, pourtant l'une des plus visibles dans
l'espace français.
Voilà. Après, moi, c'est en voyage que j'ai eu cette idée. En un moment où j'étais en voyage en Asie, dans plusieurs pays, j'ai fait un assez long voyage de plusieurs mois. Et où bah, mes guides de voyage que j'utilisais, comme beaucoup de gens quand ils voyagent et qu'elles voyagent, ne m'étaient pas très utiles pour comprendre les pays que je visitais du point de vue des femmes. Ça m'a particulièrement marquée au Népal, où j'ai rencontré une association de jeunes femmes qui réfléchissaient sur l'accès à l'avortement et à la contraception. Et j'ai passé une matinée avec elle où en fait j'ai appris plein de choses sur le tabou des règles, par exemple, notamment dans la société népalaise, mais qui est finalement, quand on y pense, assez généralisée partout dans le monde. Et je sors de ce lieu, j'arrive deux rues après, je tombe sur les groupes de touristes qui visitent les temples de Katmandou. Et je me suis dit, en fait, ils loupent quelque chose. Ils loupent quelque chose dans leur compréhension du pays qu'ils et elles visitent. Et du coup, quand je suis rentrée en France, dans la ville où je suis née, où j'ai vécu le plus longtemps, je me suis dit que c'était l'endroit où être moi-même voyageuse et partir à la recherche des femmes de la ville. En fait, c'était un défi au départ. C'est un gros travail de recherche et de balade en fait, à faire pour arriver à ce guide.
On va regarder la plaque qui est juste derrière nous, Place Olympe de Gouges. En général, à Paris, donc c'est toujours le même type de plaque, bleue et verte, avec ce cadre vert, 3e arrondissement. Place Olympe de Gouges, 1748-1793, femme de lettres féministe. Voilà ce qu'on sait. Qui était ? Est-ce qu'on peut étoffer un petit peu le portrait de cette grande femme ?
Alors déjà, on a une grande chance de voir le mot féministe, ce qui est très très rare dans l'espace public parisien, de voir ce mot qui fait peur, alors qu'il ne signifie que égalité entre les femmes et les hommes, donc quelque chose qui est consacré par notre constitution française depuis 1946. Olympe de Gouges, elle était complètement avant-gardiste parce qu'en 1791, donc 2 ans après la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, qui est vraiment fondatrice de notre démocratie encore aujourd'hui, elle publie la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, justement pour appuyer le fait qu'en 1789, cette Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'était vraiment des droits de l'homme au masculin. On parlait bien du droit des hommes.
Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. A décrété par l'Assemblée nationale dans ses dernières séances ou dans celle de la prochaine législature. Préambule. Les mères, les filles, les sœurs, représentantes de la nation, demandent d'être constituées en Assemblée nationale. Article 1er. La femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.
En 1791, elle écrit cette déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, donc elle écrit tout, elle remet tout au féminin. À l'époque, elle avait évidemment, elle était militante politique, mais elle n'avait pas le droit de l'être autant que les hommes, donc elle faisait beaucoup de théâtre. Elle a beaucoup, par le théâtre, les pièces qu'elle a écrites, défendu des idées politiques, et elle le faisait aussi beaucoup dans la rue, donc cette déclaration, elle l'a placardée en fait, comme on fait aujourd'hui dans les rues de Paris.
Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'effectivement, la Révolution française, c'était censé être la fin des inégalités, puisqu'on déclarait tous les hommes libres et égaux en droit, sauf qu'on avait oublié la moitié de l'humanité.
Oui, oui, et c'est pour ça que, et d'ailleurs la Révolution française, elle a été beaucoup initiée, les premières marches ont été initiées par des femmes qui n'avaient plus de quoi nourrir leurs enfants, ça a été le premier moteur de la Révolution, et l'espoir, il est monté progressivement, et beaucoup de femmes ont cru dans la Révolution, ont voulu y participer. Sauf que très vite, elles en ont été exclues par les révolutionnaires eux-mêmes, elles n'ont plus droit de participer au débat, elles ont été très très vite exclues de ce temps qui aurait pu être celui de l'égalité, effectivement. Mais il faut croire que ces messieurs n'avaient pas envie de s'attaquer à toutes les inégalités d'un coup, et surtout pas à leurs privilèges masculins, puisque c'est ça qui a prévalu jusque le droit de vote des femmes.
Dimanche, toute la France va voter. Avant-guerre, beaucoup d'encre et de salive coulait à cette occasion. Mais cette année, il en coule au moins autant, sinon plus, car cette année, les femmes vont voter. Comment vont-elles voter ? D'ailleurs, voteront-elles ? Dans quel sens vont-elles voter ?
Dimanche 29 avril 1945. Aux élections municipales et pour la première fois en France, les femmes usent d'un droit que leurs pères, leurs frères, leurs maris exercent eux depuis près de 150 ans, le droit de vote. Cet événement majeur scelle donc dans la victoire, ce qu'on a appelé la première vague du féminisme français, soit la lutte des femmes pour leurs droits civiques les plus élémentaires, initiée en France à sa façon dès 1791 par la pionnière Olympe de Gouges. Depuis plus d'un siècle en France, en Europe et dans le monde, les femmes ont multiplié les actions coup de poing et les manifestations. Sachant que les Françaises sont parmi les dernières femmes d'Europe à accéder aux urnes. Après deux guerres mondiales, où les femmes ont risqué leur vie et payé le prix fort pour la France, leur pays, engagées dans la résistance ou l'effort de guerre, à l'hôpital ou à l'usine, il était impossible de leur dénier encore le droit de vote. En 1944, le Comité de Libération accorde donc ce droit, mais comme le rappellent les suffragettes, les féministes, ce n'est pas De Gaulle qui leur a donné, ce sont les femmes qui l'ont glorieusement gagné.
Ça m'a énormément plu d'aller voir ce qui a progressé dans le passé et d'aller découvrir les parcours de toutes ces femmes qui ont fait avancer notre histoire. Ça a été plein de rencontres, en fait, pour moi, puisque pour beaucoup d'entre elles, je les connaissais très peu. On est très souvent penchés vers le futur plus que vers le passé. Et on s'embarrasse de toute façon souvent assez peu de connaître nos racines. Donc j'ai eu l'impression de rencontrer plein de grand-mères, quoi. Plein de grand-mères.
Des super mamies quand même. Hein.
Voilà, c'est ça. Une histoire qui ne m'avait pas été racontée, mais que je considère comme étant mon histoire. Une histoire de nous toutes et tous ici. Qui vivons à Paris et qui vivons en France, et une histoire qui était restée coincée quelque part au fond du grenier, poussiéreuse et peu connue, quoi.
On va en parler pendant toute cette balade, on va les rencontrer, toutes ces femmes. On y va ? On va vers République ? C'est par là ?
Je ne me jetterai pas. Il a rougi déjà du sang fier de nos mères. Dans ces eaux, leur amour s'est changé en prière. Je ne trahirai pas ce que murmurent les pierres.
Alors, nous voici au pied de la fameuse, les fameuses statues, parce qu'il n'y en a pas qu'une, mais en tout cas, il y a celle qui trône tout en haut de cet immense socle, qui est haut de quoi ? Allez, on va dire 20 mètres, à peu près. Qu'est-ce qu'elle nous raconte, justement, cette statue, cette république-là qu'on peut voir tout là-haut en bronze ?
Donc, la république, la fameuse Marianne, hein, qui est représentée par une allégorie féminine, c'est-à-dire que ce n'est pas une femme réelle, elle prend corps sous un corps de femme. Et pour moi, c'est vraiment l'exemple du coup de traits féminins qui ne sont pas incarnés par une personne réelle, qui donc ne parlent pas, ne pensent pas, sont simplement des objets. Et les statues de femmes qu'on rencontre dans l'espace public parisien et français, généralement, sont la plupart du temps des allégories. Ce ne sont pas des vraies femmes qui ont existé, ce sont des représentations comme celle-ci qui représentent une idée, donc soit de la République, soit pour celles qui sont à côté, de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. Elles sont complètement à contre-courant de ce qu'ils représentent, puisque mettre une femme pour symboliser une république qui n'est que masculine, c'est juste complètement contradictoire. Mais c'est comme ça que notre statuaire elle a fonctionné pendant la Troisième République et ensuite un peu au-delà aussi. Et du coup, notre regard n'est pas exercé à... Enfin, en fait, on regarde très peu les statues quand on se balade dans la ville. Donc on pense pas forcément que ce sont pas forcément des femmes réelles, ou je pense qu'on se pose pas la question.
On va tourner autour. Ça, c'est la liberté en dessous, qui est sur le socle de pierre, qui est représenté également.
Alors moi, j'aime beaucoup la fraternité, on va aller la voir, parce que...
Elle est toute corsetée, très haut. Pour le coup, elle n'a pas du tout la poitrine dégagée.
Donc là, la fraternité, c'est une mère avec ses enfants, en fait. C'est le regard d'une femme bienveillante sur deux ou trois enfants en bas âge à ses pieds, qui protège, qui nourrit, qui éduque. Et c'est vraiment le rôle qui est dévolu aux femmes. Et la statuaire, elle a aussi une vocation pédagogique d'édifier les citoyens et bien de les mettre chacun à leur place. Et bien là, on voit bien avec le mot de fraternité le rôle qui est dévolu aux femmes.
Et alors tu l'as dit, Charlotte, tu as signalé le fait qu'il y avait très peu de femmes dans ce statuaire parisien. Tu les as comptées. Combien est-ce qu'il y a de statues qui représentent des femmes à Paris ?
Il y en a une trentaine sur à peu près 300 et 400 statues d'hommes. Donc là, j'exclus toutes les statues d'allégorie qui ne représentent, même si c'est sous des traits féminins, elles ne représentent ni un homme ni une femme, mais une idée. Donc elles sont peu nombreuses. Il faut aller dans des endroits, par exemple au Square des Épinettes, dans le 17e arrondissement, où il y a une statue de Maria de Rheims, qui était aussi une militante féministe. Il y a une statue Édith Piaf, dans le 20e arrondissement, où elle a vécu longtemps. Donc il y a quelques statues de femmes. Parfois, il faut passer le périphérique pour aller voir. Par exemple, il y a une statue de Louise Michel à Levallois-Perret.
Là où elle est enterrée, justement.
Oui, on n'est pas encore arrivé à l'époque où nous avons décidé politiquement de nous rappeler des femmes de notre histoire. Ça commence pour les noms de rue, mais pas pour la statuaire. Après, il y a aussi plein d'autres façons de rendre visibles les femmes. Et je comprendrais qu'on ne veuille pas faire des statues
de toutes les personnes, de toutes les femmes qui ont marqué
l'histoire.
Mais il y a une femme là-bas au bout de cette rue, juste là derrière la place de la République. On va aller la voir, parce que pour le coup, elle est, et c'est ce qu'on va voir, entre le symbole et la vraie personne. Parce que ce n'est pas nommément quelqu'un, mais c'est un peu une idée, une image en tout cas, une femme d'un certain temps.
Quand on monte un peu, on arrivera à Belleville, mais on s'arrête devant une petite place, enfin un petit square, où il y a une statue donc, de Grisette. C'est une jeune femme souriante qui tient en fait dans sa grande robe, elle tient plein de fleurs.
Qu'elle a remontées dans son jupon.
Voilà. Et donc en fait, elle était vendeuse de roses. Vendeuse de fleurs dans les rues de Paris. Je crois qu'il y a quelque part un écriteau qui nous dit que...
Qu'on ne peut pas lire vraiment.
La Grisette de 1830, je crois. C'est une représentation d'un petit métier parmi les très nombreux petits métiers de Paris. Et il y avait les Grisettes qui étaient couturières dans le quartier, qu'on appelait comme ça parce que par rapport à la couleur de leur robe... mais qui, par extension, a représenté beaucoup de femmes qui avaient des petits métiers. Donc, par exemple, celle-ci qui est vendeuse de roses. Et en fait, j'ai trouvé très peu, en écrivant le guide, de représentations du Paris populaire, du Paris, justement, des métiers qui, pourtant, pendant longtemps, il y a eu des ouvrières, il y a eu de l'industrie dans Paris. Donc, c'est pareil, quand on va dans le centre de Paris, les Halles de Paris, ça bourgeonnait de petits métiers, puisque c'était un grand lieu d'achat et de vente, mais... Il y avait aussi les lingères qui faisaient le linge là au bord de la Seine. Et ce que représente aussi la Grisette, comme les lingères, comme toutes ces femmes, c'est que les femmes ont toujours travaillé. Et en fait, on nous a quand même tellement appris que les femmes sont à la maison, les femmes sont au foyer, s'occupent des enfants, les hommes vont travailler, rapportent le pain, rapportent l'argent pour acheter à manger. Qu'on en oublie qu'en fait, dans notre histoire, c'est pas vrai du tout. Dans notre histoire, notamment dans les familles populaires, c'était vrai pour beaucoup dans les familles bourgeoises, mais dans les familles populaires, les femmes travaillaient autant que les hommes. Et c'est un petit témoignage d'une partie de notre histoire. Et l'histoire des femmes n'est encore que ses balbutiements, même si on a la chance d'avoir maintenant... plusieurs décennies d'historiennes qui ont pris le taureau par les cornes et qui commencent à faire ce travail d'exhumation très fastidieux pour s'assurer qu'on ne l'oublie pas.
À ce sujet, il y a une grande historienne française, Michèle Perrault, qui a écrit la préface d'un livre qui participe en fait de la même volonté de rendre plus visibles les femmes et de partager leur histoire. C'est un livre qui s'appelle « Ni vu ni connu ». C'est toute une action qui a été menée par un collectif qui s'appelle Georgette Sand. On ne reviendra pas sur la raison de ce titre, parce que ça reprend effectivement le nom de George Sand, fameuse écrivaine. Et donc dans ce livre « Ni vu ni connu », Michèle Perrault, en préface, dit « L'histoire est un mot ambivalent. C'est à la fois ce qui s'est passé, mais c'est aussi le récit qu'on en fait. » Et elle dit « Évidemment, les femmes, et ça c'est incontestable, ont participé au premier plan, c'est-à-dire sur ce qui s'est passé, elles étaient présentes. Mais allez savoir, au second plan, sur le récit qu'on en fait, là, elles disparaissent. » C'est ça, en fait, l'ambivalence de ce mot « histoire ». Tout tient au récit.
Oui, tout à fait. Je me retrouve complètement, et j'ai été moi-même nourrie par Michèle Perrault et tout ce qu'elle a écrit. L'histoire, elle est évidemment jamais objective. C'est celle qu'ont retenue les personnes qui l'écrivent et qui la disent. Si les personnes qui l'écrivent et qui la disent ne s'intéressent que à ont une vision parcellaire, évidemment, ils ne retiennent que ce qu'ils veulent et ils n'enseignent que ce qu'ils veulent. C'est donc pas très étonnant que le récit qui nous est fait aujourd'hui de notre histoire soit lacunaire. C'est valable dans plein d'autres aspects. C'est pas uniquement l'histoire des femmes qui manque. J'ai moi-même jamais, ou très très peu, eu, quand on m'a appris l'histoire récente de la France, j'ai eu très peu d'informations sur l'histoire coloniale de la France et l'histoire des luttes décoloniales en particulier. On nous a bien plus appris, du point de vue du colon, l'histoire de ceux qui se sont battus pour que l'Algérie reste française. Donc c'est des choix politiques qui sont assumés et il faut aujourd'hui le questionner. Si on regarde toutes les strates de notre passé, on en apprend chaque jour, c'est que c'est un terrain sans cesse à découvrir. Pour moi, l'histoire est un voyage. Et après, ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on décide d'y valoriser. Et malheureusement, ce que je disais tout à l'heure, il a fallu que des femmes aient des diplômes d'histoire pour qu'on commence à nous apprendre l'histoire des femmes. Et c'est pour ça que je remercie mille fois Michèle Perrault pour son travail, parce qu'elle a ouvert un champ absolument immense pour des décennies de chercheuses qui vont continuer après elle à réécrire en grande partie l'histoire.
Pâle ou vermeille, brune ou blonde, bébé mignon, dans les larmes, ça vient au monde, cher à Guignon. Ébouriffé, suçant son pouce, jamais lavé, comme un vrai champignon, ça pousse, cher à pavé. À 15 ans, ça rendra l'usine sans éventail. Du matin au soir, sa turbine, chère à travail. Fleur des fortifs, ça s'étiole quand ses girons, dans un guet-apens, ça se viole, chère à patron.
Charlotte, est-ce qu'on peut regarder cette petite carte du métro? Parce qu'il y a quelque chose qui est intéressant aussi quand on parle de la place des femmes qui est faite dans la ville, dans les noms, dans ce qu'on en retient. Et évidemment, il y a les noms de stations de métro qui sont emblématiques aussi de ce dont on se rappelle, de qui on se rappelle.
Oui, je vous laisse chercher les femmes dans le plan du métro parisien. C'est facile, il y en a très très peu. Et elles sont pas vraiment dans le centre.
Ah, il y a le métro.
En fait, oui, il y en a eu pendant longtemps que trois, et ça commence à baisser à la faveur de l'élargissement, de l'allongement de certaines lignes de métro, et puis surtout du tramway. Le tramway, je ne sais plus comment il s'appelle, celui qui fait tout l'Est parisien, a été nommé d'après des noms de femmes pour justement compenser, mais à moins de renommer les stations de métro.
Ce qu'on a fait récemment pour la station Europe, on a adossé le nom de Simone Veil.
Voilà, qui je pense historiquement la quatrième du coup. Mais souvent ce qu'on nous dit c'est « Oh mais vous comprenez, les gens vont être perturbés parce qu'on leur change le nom de leur station de métro ou le nom de leur rue et après ils sont perdus. » Je pense que cet argument n'est pas tout à fait valable.
En fait, on a essayé de déposer une gerbe à la femme inconnue du soldat. Bon, on avait quatre banderoles en tout, dont l'une disait « Il y a plus inconnu que le soldat, c'est sa femme. » On avait aussi une autre banderole qui disait « Un homme sur deux est une femme. » En nous référant au sens prétendument générique du terme « homme », qui signifie « être humain », même en sens qui n'est compris de personne, ce qui fait que les flics étaient très fâchés parce qu'ils pensaient qu'on disait qu'un homme sur deux était un PD.
À l'été 1970, dans le sillage des mouvements sociaux de mai 68, la sociologue et aujourd'hui figure historique du féminisme français, Christine Delphi, décide, comme elle vient de le raconter avec huit autres militantes, de rendre hommage à la femme du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe. Cet acte, symbolique, réprimé par la police à l'époque et largement médiatisé, entendait déjà interpeller l'opinion sur l'invisibilisation des femmes dans le récit national et l'espace public. Aujourd'hui, il est surtout envisagé comme l'acte de naissance du MLF, ou mouvement de libération des femmes qui va structurer la deuxième vague du féminisme français. Et en sortant avec Charlotte Soulary du métro Charonne, on est tenté d'aller se plonger dans les écrits de toutes celles qui ont nourri et éclairé la lutte. Qu'elles s'appellent Simone de Beauvoir, Maria Mabat, Judith Butler, Virginie Despentes ou encore Virginia Woolf. Car tout proche se trouve la librairie Violette & Co, l'une des très rares librairies féministes et LGBT de France et adresse parisienne favorite de Charlotte située au 102 rue de Charonne. Mais malgré le crachin parisien, la balade continue d'un bon pas avec Charlotte, à qui j'avoue déjà ne plus voir le nom des rues de la même manière.
Moi j'en suis venue à aller dans les musées, à regarder avant tout les noms des artistes. D'ailleurs parfois il n'y avait pas le prénom, donc là, catastrophe, on ne sait pas qui est derrière un nom de famille. On est nombreuses à utiliser cette expression des lunettes genre. C'est comme si on chaussait des lunettes de vue qui nous permettaient de voir différemment la ville, et enfin pas juste la ville, hein, mais nos quotidiens aussi, nos vies au quotidien, et qui sont centrées sur le genre, qui nous permettent de comprendre. Et moi, ça a été ça, pour moi, l'apport du féminisme. C'est comme si j'avais, pour la première fois de ma vie, chaussé ces lunettes genre, et donc commencé à voir le monde autrement. Et une fois que c'est fait, c'est pas possible de les enlever, ces lunettes. La plupart du temps, on ne fait que voir le monde autrement, maintenant.
Et alors, qu'est-ce que c'est, en dehors des lunettes genre, déjà, qu'est-ce que c'est que le genre? Parce qu'on en parle beaucoup, parce que là, on parle des femmes, souvent on a dit le sexe, sauf que là, on va bien plus loin. On n'est pas sur l'anatomie biologique, on est sur le genre. Qu'est-ce que c'est exactement?
Le genre, c'est le construit social autour du sexe. C'est-à-dire qu'on est garçon ou fille, ça ne fait pas biologiquement de nous les hommes et les femmes que nous sommes. Le genre fait de nous les hommes et les femmes que nous sommes parce que la société a construit le masculin et le féminin, a construit des rôles séparés et différents pour les hommes et pour les femmes, et on nous a appris à nous comporter comme filles et donc comme femmes. Et les garçons, on leur a appris à se comporter comme garçons et ensuite comme hommes. Et
ça va dès l'école. C'est un sexe social, on pourrait dire.
C'est ça, c'est une construction une organisation de la société qui nous cloisonne et qui réglemente finalement la façon dont on évolue selon qu'on soit né garçon ou fille. Et heureusement, notre éducation ne fait pas tout. Et c'est pour ça que c'est souvent un combat pour toutes celles qui ont été avant-gardistes et qui se sont battues pour être la première femme médecin, la première femme pilote de ligne, la première femme présidente de la République, etc., etc. Et donc, c'est un combat, mais qui permet à plein d'autres derrière de considérer que c'est possible et que c'est accessible.
Arrivé au square, alors qui est fermé parce que j'ai l'impression qu'il y a des intempéries puisqu'il pleut et un peu de vent, mais on est devant le square de la Roquette et c'est un lieu que tu voulais nous montrer, Charlotte. Pourquoi?
Ça ne se voit plus aujourd'hui parce que c'est un square parisien comme un autre, mais ce lieu a été pendant longtemps le centre de deux prisons, les prisons de la Petite Roquette et de la Grande Roquette. Et l'une des deux, la Petite Roquette, a eu la particularité d'être pendant longtemps une prison de femmes.
Et ça, c'est ce qu'il en reste d'ailleurs, parce qu'on a les grilles en fait devant nous, et derrière il y a le jardin, il y a même des palmiers, ce qui est assez étonnant pour une ville comme Paris. Et il reste en fait, c'est quoi ça? C'était l'entrée de la prison?
Voilà, il nous reste uniquement l'entrée de la prison, tout le reste a été rasé. Et il nous reste aussi, de l'autre côté de la rue, l'emplacement des dalles de la guillotine. Puisque c'est ici qu'ont été pratiquées beaucoup de mises à mort par guillotine quand c'était encore possible. Et deux femmes ont été parmi les personnes qui ont été condamnées à mort. Ça m'a beaucoup intéressée quand j'ai un petit peu cherché l'histoire de cette prison, parce que parmi les deux femmes qui ont été condamnées à mort et qui ont été exécutées, il y en a une qui était avorteuse, qui a pratiqué des avortements à une époque où c'était interdit.
Marie-Louise Géraud, c'est ça?
Voilà. Donc Marie-Louise Géraud qui a été exécutée en 1943. Et en fait, pour moi qui me suis longtemps beaucoup battue pour le droit à l'avortement, je ne savais pas qu'on avait pu être condamné à mort en France pour avoir pratiqué un avortement. Et en fait, ça a été le cas pendant une période très très courte. C'était pendant le régime de Vichy, pendant la Seconde Guerre mondiale en France, qui a été passée. C'est une loi qui condamnait à mort le fait de pratiquer un avortement, donc qui a encore plus renforcé. C'était déjà interdit par la loi, mais qui l'a encore plus renforcé. Qu'elle était condamnée à mort et tuée pour ça, pour moi, c'est vraiment l'exemple flagrant de à quel point certaines lois ont été contre les femmes, parce qu'elles contribuaient à contrôler le corps des femmes, et en fait jusqu'à une époque très récente. Donc c'est un élément déterminant. Alors ça a été le point déterminant de la deuxième vague du féminisme en France, qui a abouti à la légalisation progressivement de la contraception, de l'avortement, et puis même encore jusque très récemment de permettre vraiment un accès à l'avortement totalement indépendant. C'est pas complètement abouti.
S'il ne nous donne pas les moyens de n'avoir que les enfants que nous voulons, c'est qu'il sait bien que ce serait catastrophique pour leur prévision démographique. Surtout pas trop d'informations sur la contraception. Il vaut mieux culpabiliser celles qui se font avorter. Laissez-nous vivre, mais ne nous laissons pas aller.
Il est certain que ce jugement est à l'image même du désarroi des juges devant cette loi sur l'avortement. Marie-Claire a déposé et a dit dans quelles conditions tout s'était passé pour elle et dans quelles conditions elle avait décidé son avortement.
Faire un changement de la loi.
Sur les marches du tribunal de Bobigny en 1972, à l'issue des procès de la jeune Marie-Claire et de son entourage, qui l'a aidée à avorter après un viol, l'avocate Gisèle Halimi, toujours très placide devant les micros, se félicite de la relaxe de sa cliente âgée de 17 ans seulement. Aussi, elle entend bien ne pas lâcher le débat qu'elle a contribué à ouvrir et agiter avec d'autres sur l'avortement en France. 3 ans après, le 17 janvier 1975, la loi Veil, du nom de Simone Veil, alors ministre de la Santé qui a porté ce projet, va dépénaliser l'interruption volontaire de grossesse en France. Grande féministe française, l'avocate Gisèle Halimi est décédée à l'été 2020. Et à son enterrement, dans le cimetière parisien du Père-Lachaise, sur de larges panneaux, on pouvait lire ces simples mots « Merci ».
Je me permets de convoquer les quelques muses que je taquine. J'en profiterai pour évoquer les éternelles pas féminines, les grosses, les moches mal fagotées qu'on voit pas dans les magazines, boulets des canons de la beauté, les éternelles pas féminines. Je veux chanter les tartes, les exclus du mystère, les rayés de la carte qu'elles lisent à l'envers. Je veux chanter ces filles, oublier des fantasmes et des talons aiguilles, mais jamais des sarcasmes, les sauvages et les frustes qui ne parlent qu'en jurant.
Bon Charlotte, la balade s'achève dans la quiétude du Père Lachaise. Il y a une chose qu'on n'a pas vue, et ça j'étais assez étonnée, et que je pensais qu'il allait nous sauter aux yeux, en particulier dans l'Est parisien. C'est un phénomène qui est assez nouveau, qui date de septembre à peu près 2019, qui finalement, moi je trouve, va pas mal dans le sens de ta démarche. C'est la démarche des colleuses.
Oui.
Alors les colleuses, c'est un groupe de femmes qui se sont mis à dénoncer les féminicides en collant des messages hyper puissants, hyper chocs, sur les murs de Paris, puis maintenant il y en a dans plein de villes. Et moi j'y ai vu finalement cette idée aussi de rendre visible, de montrer le sort fait aux femmes et la situation qu'elles pouvaient connaître parfois dans l'intimité du foyer et de rappeler en fait cette réalité-là.
Ouais, et on peut le mettre en pendant avec la déclaration des droits de la femme et la citoyenne qu'Olympe de Gouges collait sur les murs de Paris en 1791. Les murs de la ville ont de tout temps été l'espace d'expression quand on n'en a pas d'autre, quand on n'est pas entendu ailleurs, quand on n'est pas pris au sérieux, voire quand on est dénigré et attaqué parce qu'on a une parole qui fâche, qui divise, qui met le doigt là où ça fait mal et qui pointe du doigt l'inaction des dirigeants politiques.
Parce que ça veut dire que Olympe de Gouges, c'était une colleuse en fait.
Olympe de Gouges était une colleuse, les suffragettes ont été des colleuses, mais pas que les féministes, les mouvements syndicaux, les mouvements politiques, tous les mouvements sociaux se sont appropriés les murs des villes pour s'exprimer. Quand il n'y avait pas d'autre espace pour le faire, quand on ne peut pas avoir accès à une tribune. Et heureusement qu'on a encore les murs pour le faire, ou les trottoirs pour sortir et s'exprimer et lancer des manifestations.
Et puis aussi peut-être pour déambuler et découvrir la ville. C'est un petit peu plus solitaire, c'est peut-être moins collectif, mais c'est un début.
Juste regarde pour pas me planter. Quel trajet il faut qu'on fasse. Je pense que je m'avais été noté quelque part.
Ah, parce que vers la chaise, c'est un petit labyrinthe. Ouais. Hein.
Donc prendre l'avenue latérale du Nord, puis avenue de la Chapelle. C'est, toutes les petits sentiers du Père Lachaise s'appellent avenue. Donc ce sont des toutes petites rues pavées piétonnes.
Au moins, c'est une avenue sans voiture.
On entend, c'est un des rares endroits dans Paris où on entend les oiseaux, même en plein hiver.
Tu l'as beaucoup arpenté, le Père Lachaise, pour la guide de voyage.
J'ai un peu galéré à identifier où étaient les tombes des femmes que dont je voulais parler. Après, j'ai découvert tout un monde parce qu'il y a beaucoup de personnes qui... Comme c'est un peu une encyclopédie en soi, le Père Lachaise, vu toutes les personnes qui y sont enterrées, il y a, Il y a des sites, il y a...
Des connaisseurs, il y a des experts.
Il y a des guides, voilà, il y a des personnes passionnées par le Père Lachaise, donc ça m'a aidée. Et puis, dès lors que la curiosité est là, on fait des découvertes à tous les coups, quoi qu'il arrive. Et c'est aussi pour ça qu'on n'a pas... On n'a pas juste fait un livre, en fait. J'ai commencé par monter une plateforme de blog qui s'appelle laguidedevoyage.com parce que c'est un projet qui est d'emblée collaboratif. C'est un projet immense que d'essayer de recenser les lieux. Et donc, il faut s'y prendre à nombreuses et nombreux. Donc, on a lancé la plateforme de blog avec des femmes qui, d'ailleurs, vivent sur différents continents et qui, avec la même démarche, donnent des clés aux voyageurs et aux voyageuses pour aller découvrir autrement des lieux intéressants.
Sachant que toi, tu as initié, en tout cas le livre est sorti en 2018, et en parallèle, depuis, il y a énormément d'initiatives de cet ordre qui ont commencé à voir le jour. Il y a des étudiantes en histoire de l'art, justement de l'école du Louvre, qui ont initié une carte du matrimoine parisien. Il y a aussi le collectif Georgette Sand, qui... avait déjà publié ce livre « Ni vu ni connu » qui recensait des grandes figures. La mairie de Paris a elle-même publié maintenant un site et héberge une plateforme qui met en lumière des grandes femmes qui s'appelle les Monumentales. On sent qu'il y a quand même une vraie énergie, un mouvement en tout cas.
Oui, oui, et la guide de voyage fait partie de toute cette dynamique et d'autres avant moi ont essayé de faire émerger la question du matrimoine, souvent en étant moquée. Justement, typiquement l'association HF qui est à l'origine de l'initiative des journées du matrimoine, qu'elles veulent le pendant des journées du patrimoine qui a lieu chaque année en septembre, pour justement pointer du doigt le fait qu'il y a beaucoup moins de femmes, notamment dans le patrimoine, mais aussi de femmes artistes dans la culture d'aujourd'hui, qui sont mises en avant. Et donc, c'est tout autant de pierres à l'édifice qui permettent progressivement de changer le regard et d'apporter aussi des propositions culturelles pour compenser tout ce manque. Alors là, on est dans une petite impasse du cimetière qui est facile d'accès quand on regarde sur la carte pour trouver la tombe d'Honoré de Balzac, qui est juste en face.
Ah oui, Honoré de Balzac, né à Tours le 20 mai 1799. Et il trône justement sur une colonne avec ce buste en bronze. Un visage qu'on connaît en fait, étonnamment.
Exactement, oui, c'est vrai que le visage d'Honoré de Balzac...
En tout cas, quand on est français et qu'on a été à l'école française.
Et puis de le lire aussi, on le lit à l'école, on le connaît. De l'autre côté, juste en face, il y a la tombe d'Hubertine Auclert. Donc là aussi, il y a son visage, mais c'est surtout... il est en tout petit. Surtout, ce qu'on voit, c'est un grand drapé en bronze vert, enfin, je ne sais pas comment définir, avec écrit dessus le suffrage des femmes, qui est le nom de l'association qu'elle avait fondée. Donc, à la fin du 19e siècle, Hubertine Auclert, c'était une des célèbres militantes pour le droit de vote des femmes. Donc membre du courant des suffragettes. Et donc, elle a marqué, avec Marguerite Durand aussi et d'autres, le combat pour le droit de vote des femmes de la fin du 19e et du début du 20e. Elle est morte avant de voir l'aboutissement du combat de toute sa vie. Et finalement, cette tombe avec le suffrage des femmes inscrit dessus, c'est l'une des rares tombes qui dit quelque chose de la personne qui y est enterrée. C'est pour ça que je l'aime bien, c'est que le combat de sa vie est visible sur sa tombe.
Un combat long, sachant que ça convoque des images aussi assez folles. On voit par exemple ces femmes qui sont en train de brûler leurs chaînes. Ça, c'est des choses qu'on n'a pas en tête, ce n'est pas des images qu'on a.
Ou s'enchaîner devant les grilles du Sénat, par exemple, parce qu'elles se sont beaucoup... Le Sénat était la chambre qui empêchait en fait pendant l'entre-deux-guerres que ça passe le droit de vote, et du coup oui, c'était aussi de l'action dans la rue, de l'action de
qu'on retrouve aujourd'hui et qu'on envisage parfois comme étant nouvelles parce que dites radicales, comme si elles venaient rompre avec le pacte et la paix sociale de la ville, alors qu'en fait, les luttes, elles se sont toujours invitées et les femmes ont lutté de tout temps.
Et c'est à ce titre qu'il est particulièrement important qu'on nous enseigne aussi l'histoire du point de vue des personnes qui ont cherché à la faire évoluer, à la faire avancer, donc l'histoire des luttes. Si on apprend uniquement qu'à un moment donné, les choses changent, et c'est une nouvelle date, parce qu'on apprend l'histoire par les dates, c'est une nouvelle date, à partir de cette date-là, voilà, les femmes ont droit de vote, mais qu'on n'apprend pas qu'il y a eu des décennies de combats pour faire changer les choses, en fait, jamais on comprend, quand on est enfant, que en fait, si les choses changent, c'est parce que des gens les ont fait changer. C'est parce que des gens se sont battus contre l'ordre établi. Et ça signifie qu'il y avait d'autres personnes qui, elles, se battaient pour l'ordre établi. C'est ça qu'on a besoin d'apprendre pour être pleinement acteurs et actrices de nos vies quotidiennes et de la vie sociale. D'apprendre que rien n'est figé et que quand il y a quelque chose qui est injuste, ça peut changer et ça doit changer. Mais du coup, c'est pas étonnant que personne n'ait envie de nous enseigner l'histoire de luttes, surtout quand elles sont illégales, quand c'est pour s'opposer à une loi, et qu'on le fait parfois en prenant avec des moyens qui s'opposent à la loi, qui font qu'on finit en prison. Et du coup, c'est ça aussi qu'il faut qu'on apprenne. C'est ça aussi, c'est d'apprendre à se lever contre quelque chose d'injuste et à refuser même la loi quand la loi est indigne, est injuste et écrase son prochain. C'est ça être citoyen.
Donc c'est pas qu'une leçon féministe du tout, c'est une leçon citoyenne en fait.
Tout à fait. Ça fait partie des choses qui nous rendent possible de vivre en démocratie. C'est si on n'oublie pas que la démocratie se construit progressivement, qu'elle n'est pas encore aboutie, il y a encore des choses à faire avancer. Et que surtout, elle peut être remise en question. Et moi, ce que j'ai envie, c'est que toutes les petites filles, mais du coup aussi tous les petits garçons, aient les moyens pour participer du mieux qu'ils et elles peuvent à l'histoire en s'attaquant à l'ensemble des injustices. Le féminisme ne se contente pas de l'égalité du droit de voter, des salaires ou quoi. C'est une affaire d'émancipation collective. Une affaire de justice et en fait c'est un des éléments fondamentaux de l'intérêt général, du bien public, que de rendre possible ça. Donc c'est une affaire pour toutes et tous et on a besoin absolument de toutes et tous y contribuer, quoi.
Auditeurs et auditrices d'Afrique ou d'ailleurs, si vous aussi vous êtes curieux du matrimoine, cet héritage culturel et historique laissé par les femmes chez vous, n'hésitez pas à vous rapprocher de la plateforme laguidedevoyage.com créée par Charlotte pour partager votre regard et vos trouvailles. Merci à Charlotte Soulary pour cette visite dans le Paris féministe. Merci à la Sonothèque de RFI et à Lina pour leurs archives. Merci aux libraires de Violette & Co. Et merci aux femmes du monde entier, de la Pologne à l'Amérique latine ou l'Afrique pour leurs innombrables combats. Sur notre site, vous retrouverez les références de la guide de voyage et de la librairie Violette & Co. Laure Allary, Céline Develay-Mazurel, on vous souhaite une bonne semaine à l'écoute de RFI.
L'atelier des médias, Steven Jambeau. Je reçois